Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce lundi 29 août 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Les Américains iront priver l'Europe du pétrole et du gaz iranien. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, nucléaire sans le règlement des questions liées aux accords de garantie, l'accord n'aura pas de sens, a insisté le président iranien Ebrahim Raisi. L'Iran étudie soigneusement la réponse de la partie américaine, a fait part Amir Abdollahian, chef de la diplomatie iranienne. Et puis le ministre irakien des Affaires étrangères en visite à Téhéran ce lundi, au menu les relations irano-saoudiennes. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Sans le règlement des questions liées aux accords de garantie, l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 n'aura pas de sens, a insisté le président iranien. Lors de la conférence de presse, lundi, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré « Nous avons essayé de résoudre les problèmes du pays et nous appuyons sur les capacités internes car regarder des mains étrangères ne résout pas le problème et ne fait que nous retarder ». La conférence de presse du président Raisi a débuté ce lundi avec la présence des médias nationaux et étrangers. Nous avons résolu les problèmes du pays en nous appuyant sur les capacités internes et domestiques, sans regarder l'extérieur. Nous avons essayé de résoudre les problèmes du pays en s'appuyant sur nos potentiels internes, parce que regarder les autres et attendre les autres ne résout pas un problème, ne fait qu'on nous retarder, a-t-il déclaré. Les capacités internes doivent être utilisées, c'est pourquoi la question de la production nationale est l'un des points les plus centraux du gouvernement. Par conséquent, nous pensons que nous devons prêter attention aux capacités internes et à la confiance dans les forces du pays, a-t-il ajouté. En réponse à la question d'un journaliste chinois, le président Raisi a indiqué « Notre présence dans la région est garante de sécurité ». Il ne faut pas affecter les relations avec la Chine par des problèmes internationaux et il s'agit d'une relation complètement indépendante entre les deux pays. Les deux pays sont déterminés à développer leurs relations. Nous sommes devenus membres de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il y a des documents que nous avons examinés, a-t-il noté. Nous avons déclaré à maintes reprises que les armes nucléaires n'avaient pas leur place dans notre doctrine de défense. Dès le début, le régime sioniste n'a pas voulu que l'Iran acquérisse cette science nucléaire pacifique, mais aujourd'hui, cette connaissance est devenue indigène, s'est-il félicité. Les menaces du régime sioniste n'ont pas mené et ne mèneront nulle part. Nous ne nous sommes pas arrêtés avec l'assassinat des scientifiques nucléaires iraniens. Aucune action du régime sioniste ne pourra nous arrêter, a-t-il dit. En réponse à la question d'un autre journaliste yéménite, le président Raïsi a précisé « Nous pensons que le lien entre régime sioniste et les pays de la région ne crée pas de sécurité pour eux. Comment ceux qui normalisent les relations avec ce régime veulent-ils répondre au sang des Palestiniens qui a été versé ?» se demande le président. En réponse à une autre question déposée par un journaliste français, le président iranien a annoncé « Nous suivons les négociations sur la levée des sanctions. Les négociations n'ont aucun sens sans le règlement des questions liées aux accords de garantie. Nous avons débloqué une partie de l'argent bloqué du peuple iranien. Notre objectif de négociation est de lever les sanctions. Nous avons mis l'accent sur la vérification et l'obtention des garanties et n'avons jamais quitté la table des négociations », a-t-il encore insisté. Enfin, la question de savoir s'il aura une réunion officielle ou informelle avec le président Biden lors de son prochain voyage à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies, le président Raïsi a répondu l'année dernière en réponse à une question similaire. « J'ai dit non et maintenant je dis non toujours et il n'y a pas de plan pour une telle réunion, il n'y en aura pas », a-t-il conclu. L'Iran étudie soigneusement la réponse de la partie américaine. La République islamique d'Iran étudie de près la réponse des États-Unis au projet d'accord visant à rétablir l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 en agonie, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian ce lundi. Lors d'une conversation téléphonique, Amir Abdollahian et son homologue omané Badr bin Hamad bin Hamoud al-Boussaidi ont évoqué la situation autour des négociations à Vienne sur la reprise du plan global d'action conjoint PGAC sur le programme nucléaire iranien et la levée des sanctions anti-iraniennes. Le très haut diplomate iranien a déclaré que l'Iran étudie toujours attentivement la réponse américaine, ajoutant que la République islamique annoncerait son avis après avoir étudié et résumé les réunions d'experts. « Notre volonté est basée sur la conclusion d'un bon accord stable et durable », a-t-il conclu. Le but des négociations nucléaires est de lever les sanctions et les accusations sans fondement portées contre l'Iran. Déclaration de Mohammad Eslami, vice-président et chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA. Mohammad Eslami, vice-président, a déclaré « Le but des négociations sur le nucléaire est de lever les sanctions et les accusations sans fondement portées contre le pays et de faire profiter les gens de ses avantages économiques ». Interrogé sur la date de la réponse de l'Iran aux États-Unis, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanani, a pour sa part déclaré que la question de la réponse aux États-Unis faisait l'objet d'une enquête lors des réunions spécialisées et d'expertise et qu'il n'y avait pas de moment précis pour dire quand l'Iran répondra, mais au plus tôt après les résumés et la réponse sera communiquée bientôt. Le ministre irakien des Affaires étrangères est attendu à Téhéran. Le ministre irakien des Affaires étrangères est en visite ce lundi à Téhéran. Le porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé que le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, arrive à Téhéran ce lundi 29 août pour rencontrer les autorités iraniennes. Le porte-parole du ministère irakien des Affaires étrangères a annoncé, cité par la presse, que le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, arrivera à Téhéran ce lundi pour rencontrer des autorités iraniennes. Il est possible que les développements en Irak et la médiation de ce pays à propos des relations irano-saoudiennes soient au menu des discussions. Enfin, l'Iran est prêt à partager son expérience fructueuse de 4 décennies de stabilité et de progrès avec les pays indépendants. L'Iran est prêt à partager son expérience fructueuse de 4 décennies de stabilité et de progrès avec les pays indépendants, a déclaré Ali Borelikani, vice-ministre iranien des Affaires étrangères, chargé des affaires politiques, lors d'une rencontre avec le vice-ministre bolivien des Affaires étrangères, Fedi Mamani, à Téhéran, dimanche. Lors de la rencontre, dans le cadre du 4e cycle des consultations politiques entre l'Iran et la Bolivie, les deux parties ont discuté des relations bilatérales ainsi que des derniers développements dans les arènes internationales. Ali Borerikani a souligné l'expérience de la République islamique d'Iran face aux pressions étrangères et a réitéré à cette occasion que l'Iran est prêt à partager ses expériences fructueuses de 4 décennies de stabilité et de progrès avec les pays indépendants. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Les Américains iront priver l'Europe du pétrole et du gaz iranien. Un examen par des experts de la réponse que l'Iran a reçue des États-Unis aux amendements de Téhéran au texte de l'accord nucléaire de l'Union européenne est en cours et se terminera d'ici le week-end. Le site Nour News, affilié au Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a écrit dimanche 28 août dans un tweet que l'examen détaillé de la réponse de Washington à Téhéran concernant les idées de coordination de l'Union européenne était toujours en cours au niveau des experts. Il a ajouté que le processus se poursuivra au moins jusqu'à la fin de vendredi. Mercredi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a annoncé que l'Iran avait reçu la réponse des États-Unis aux propositions de Téhéran visant à résoudre les questions restantes dans les pourparlers sur la levée des sanctions et la relance de l'accord nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan global d'action conjoint, PGAC. Le diplomate iranien a déclaré que la réponse avait été reçue par le coordinateur de l'Union européenne, Henrik Mora, ajoutant qu'un examen minutieux avait déjà commencé. 4 jours d'intenses pourparlers entre les représentants de l'Iran et les 5 autres parties du PGAC se sont terminés le 8 août avec un texte modifié proposé par l'Union européenne sur la table. Les pourparlers ont eu lieu après une interruption de 5 mois, les négociateurs américains n'ayant pas réussi à surmonter leur indécision. L'Iran a soumis sa réponse au projet de proposition de l'Union européenne le 15 août, une semaine après la fin du dernier cycle de pourparlers. Après avoir soumis sa réponse, Téhéran a exhorté Washington à faire preuve de réalisme et de flexibilité afin de parvenir à un accord. Cependant, il a fallu près de 10 jours à l'administration Biden pour soumettre sa réponse aux commentaires de l'Iran sur le projet de l'Union européenne. L'Iran a participé de manière sérieuse, constructive et responsable aux négociations, a répondu aux propositions de la partie européenne en temps opportun, a agi de manière innovante et a fait preuve de la flexibilité nécessaire pour la conclusion d'un accord, a déclaré le porte-parole lors d'une conférence de presse. Mais ce qui est préoccupant maintenant, c'est la tergiversation de la partie américaine à fournir une réponse. Le gouvernement américain est responsable du statu quo du PGAC et de la non-application de l'accord. Nous pouvons passer à l'étape suivante au cas où le gouvernement américain fait preuve d'une volonté sérieuse et agirait de manière responsable dans ses promesses et ses actions, a-t-il insisté. Ces remarques sont intervenues quelques heures après que le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, s'adressant à un événement universitaire dans la ville de Santander, dans le nord de l'Espagne, a déclaré que la réponse fournie par l'Iran était raisonnable, exprimant l'espoir que cette réponse leur permettra d'achever les négociations. Les pourparlers pour sauver l'accord ont débuté dans la capitale autrichienne en avril de l'année dernière, des mois après que Joe Biden a succédé à Trump pour examiner le potentiel d'un retour des États-Unis à l'accord multilatéral et à la suppression des sanctions. Malgré des progrès notables, l'indécision et la procrastination des États-Unis ont provoqué de multiples interruptions dans les pourparlers nucléaires.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition du débat. Alors, à l'occasion du 40e anniversaire du Hezbollah libanais, le secrétaire général du Hezbollah libanais a prononcé un discours dans lequel il a tracé toutes les lignes et les politiques importantes et les lignes rouges surtout du Hezbollah libanais, aussi bien dans les politiques intérieures du Liban qu'internationales. Il a effectivement évoqué plusieurs points importants, à savoir les évolutions de la région, surtout en ce qui concerne les tensions avec Israël, non seulement sur la zone contestée de Karish, mais sur divers points qui concernent les évolutions du Moyen-Orient. Il a évoqué également les relations avec l'axe de la résistance, l'Iran et les autres pays de cet axe. Alors, aujourd'hui, dans ce débat, nous allons évoquer les divers points et les points importants. Merci d'être avec nous. Nous allons alors analyser les points importants de ce discours à l'occasion du 40e anniversaire du Hezbollah libanais. Alors, nous avons deux invités, Rada Oubala, géopoliticienne à l'Université islamique du Liban, donc qui est avec nous en direct de Beyrouth, mais également Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Alors, Madame Oubala, on commence avec vous si vous voulez bien. Donc, vous êtes au Liban, à Beyrouth, vous êtes géopoliticienne et vous suivez de très près les évolutions du Liban, mais également les politiques du Hezbollah libanais. Dans un premier temps, quel point faudrait-il retirer et se souvenir en fait de ce discours important du Seyyed Hassan Nasrallah?
Oui, alors d'abord, je vous remercie pour m'avoir encore une fois invité sur votre plateau.
Merci
sur votre
à vous.
Plateau. Et je salue entre autres également votre invité. Pour répondre à votre question, alors le secrétaire général du Hezbollah, à travers son discours, a adressé deux messages. Un message politico-militaire à l'intérieur et à l'extérieur, aux alliés, aux amis et aux ennemis. Et je me suis concentrée sur le message purement culturel. Dans le contenu et dans la forme. Parce que ce discours était en fait encadré, et c'est pour la première fois, je commence par le côté culturel, parce que pour la première fois, l'outil culturel est utilisé en tant qu'outil géopolitique. Durant ces dernières années, c'est-à-dire ces quatre dernières années, et le Hezbollah était la cible, et surtout ces derniers mois, après la victoire du Hezbollah aux dernières élections législatives, d'une campagne sur sa culture, sur sa littérature. Beaucoup de forces libanaises, de médias, d'intellectuels libanais ont accusé le Hezbollah d'être différents, voire étrangers de la culture libanaise, de la nation libanaise, alors qu'il n'y en a pas, des traditions du Liban, etc. Et donc là, dans ce festival, en fait, son discours s'inscrit dans la célébration, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, des 40 années du Hezbollah, qui était baptisé 40 printemps. Un festival central a été organisé dans la banlieue sud, au cours duquel ont été diffusées plusieurs vidéos, dont certaines reprenant les chants révolutionnaires sur l'action résistante militaire de la résistance islamique. Mais surtout, ce festival s'est achevé par une scénographie panoramique multimédia intitulée « L'alphabet de la victoire », qui raconte l'histoire de ces 40 ans de la résistance au Liban. Et cette mise en scène a été réalisée par l'unité des activités médiatiques du Hezbollah. Donc, le Hezbollah a montré tous les exploits de la résistance islamique dans un cadre purement culturel. Il a utilisé des techniques très poussées comme les hologrammes. Et jamais aucun festival de toutes les parties libanaises n'a entamé une telle expérience. C'est le premier parti, qui en plus est un parti doctrinal, qui a documenté ses exploits de cette manière. Donc là, j'ai terminé le côté culturel. Par rapport à son discours, alors il a divisé son discours. Il a commencé bien entendu par la lutte contre l'entité sioniste. Oui. Bien entendu, il a rappelé les exploits, les principales étapes historiques, mais surtout, ce qu'il faut noter de nouveau, deux points, un sécuritaire militaire et un autre qui est lié à l'arsenal militaire. Il a bien souligné que dans cette ère du 21e siècle, il y a une révolution technologique, il y a de nouvelles armes de haute qualité. Tout comme l'entité sioniste ne cesse de se moderniser et de se renforcer, nous aussi, nous allons poursuivre notre voie, notre progression au niveau des armes de notre arsenal balistique. Donc, la résistance compte poursuivre son évolution, voir ses performances et les renforcer. Et un autre point concernant les hameaux de Sheba, où il a bien souligné que malheureusement, il y a encore une terre occupée par l'entité sioniste au Liban et que nous avons exécuté quelques opérations de résistance dans le cadre de rappeler le gouvernement libanais qu'il est de son devoir et de sa responsabilité de demander à la communauté internationale, à l'ONU, de libérer ces terres. Personne ne répond au Liban, personne au Liban n'a fait un tel geste et donc il a bien déclaré que nous allons revoir notre position à ce sujet. Donc, ce qui veut dire qu'il compte peut-être réengager la résistance islamique dans la libération de ces terres. Donc ça, c'était au niveau de la lutte contre l'entité sioniste. Et bon, je vais résumer très vite tout le discours. Oui. Alors, juste trois points. Il a bien souligné son soutien à la Syrie. Il a remercié le président Bachar al-Assad et feu le président Hafez al-Assad. Mais ce qui est nouveau dans son discours, c'est qu'il a bien souligné qu'aujourd'hui, il l'a dit trois fois, c'est nous qui soutenons la Syrie. Okay. Certes, il l'a mis dans le cadre c'est normal en tant qu'allié, mais bon, cela signifie que nous avons désormais les capacités à le faire. Ensuite, il a bien souligné concernant les factions de résistance palestinienne que la coordination était toujours présente, qu'elle l'est toujours, qu'elle se poursuivra avec toutes les factions. Et enfin, il a déclaré que nous avons renforcé, il a dit le Hezbollah a renforcé l'axe de la résistance dans la région. Ces trois points que j'ai soulignés, soutien à la Syrie, coordination avec les factions de la résistance palestinienne, renforcement de l'axe de la résistance, cela veut dire une seule chose. Que désormais, le Hezbollah est la fer de lance et le fer de lance de l'axe de la résistance. Voilà.
Merci pour vos explications. Madame Oubala, restez en ligne, s'il vous plaît. Alors, Madame Idani, Madame Oubala vient de résumer le discours de Seyed Hassan Nasrallah, mais l'un des points importants auxquels Seyed Hassan Nasrallah a évoqué, en fait, dans ce discours, était la normalisation des pays du Golfe Persique avec Israël. Et selon Nasrallah, l'un des objectifs d'Israël dans l'affaire de Karish et les contestations sur cette zone pétrolifère est de pousser le Liban dans les bras d'Israël. D'abord, que pensez-vous en général de ce discours, mais surtout de ce point important ?
Alors effectivement, ce discours est un point d'inflexion stratégique et important parce que non seulement Il présente effectivement les acquis, les réalisations de la résistance libanaise depuis 1982, donc depuis 40 ans, son évolution sur le terrain, dans la libération des terres libanaises, donc dans les différentes batailles et les différentes étapes de libération, la dernière ayant été celle de la libération des Jouroudes de Qalamoun, de Arsal, en fait, de Daesh, et ceci donc en coordination avec l'armée libanaise et l'armée syrienne, mais aussi donc jusqu'à présent donc son engagement à fond dans cette lutte pour non seulement la libération du territoire, mais aussi la capacité, la nécessité pour que le Liban puisse disposer de ses richesses. Et là-dessus, il s'est montré complètement intransigeant vis-à-vis non seulement des Israéliens, mais vis-à-vis aussi des États-Unis et vis-à-vis de tous ceux qui soutiennent Israël, qui pourrait être à l'intérieur ou à l'extérieur, comme l'Arabie saoudite et tous les autres. Donc ça, c'est un point très, très important. Le deuxième point très important que j'ai relevé, c'est le passage à une construction de l'État libanais, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait une étape de défense et d'aide, effectivement, de la population. Mais maintenant, on va passer à la construction d'un État souverain, fort et riche de ses richesses, de l'exploitation de ses propres moyens, et donc qui s'opposera à toute agression et à tout manquement dans ce sens qui voudrait de tous ceux qui veulent mettre la main sur l'indépendance de la décision politique libanaise et de sa souveraineté. Donc là-dessus, il y avait un message effectivement à l'Arabie saoudite, un message à tous les pays, aux États-Unis, bien entendu. Cette ambassade américaine qui est à l'intérieur du Liban s'arroge tous les droits pour aller voir tous les ministres, etc., et va discuter dans les détails de ce qu'il faut faire. Donc là, effectivement, le Hezbollah montre très clairement son intention de stopper, de mettre le holà à toutes ces pratiques extérieures, aussi bien donc les américaines que saoudiennes, que autres que Qatari, que autres pays arabes qui pourraient, ou autres pays comme la France et l'Angleterre. Donc ça, c'est vraiment une mise en garde importante, mais aussi une déclaration importante du programme à venir. Pour ceci, non seulement il dit que nous avons toute la puissance militaire pour le faire, mais la question, ce n'est pas seulement la puissance militaire, c'est aussi la puissance idéologique, c'est aussi les générations à venir qui sont formées effectivement à cette idée d'indépendance et de souveraineté du pays. Et là, nous, depuis 40 ans, nous œuvrons à ça, et les générations à venir, nous comptons sur elles et pour la construction de ce pays. Et ça, c'est un point très, très important que, d'un autre côté, nous ne sommes pas opposés à toutes les relations d'amitié que vous pouvez avoir, là, s'adressant à l'État libanais. Nous ne sommes pas opposés à toutes les relations d'amitié que vous pouvez avoir avec tous les pays du monde, mais que personne, absolument personne, ne viennent titiller notre souveraineté et nous imposer ses vues sur la politique et sur les positions à prendre. Donc là, c'était un point vraiment très, très important. Dernier point très important qui a été aussi souligné par Mme Boubala, c'est la présence quand même, et le développement et la présence et l'intention de continuer à développer les relations avec l'axe de la résistance, dont le Hezbollah est un dirigeant important, ou peut-être le créateur, mais aussi dont la Syrie est la pierre angulaire, et l'Iran est aussi un des piliers les plus importants de cet axe de la résistance, qui ne se limite pas ni au Liban, ni à la Syrie, mais qui va à toute la région. Et donc il a parlé du soutien l'Irak dans la lutte contre le terrorisme, du soutien au Yémen, du soutien à la résistance palestinienne, qui est aussi au centre du combat aussi du Hezbollah. Donc, ça, et donc la nécessité de la nécessité et la volonté de continuer non seulement dans ce sens, mais d'accentuer la coordination et la coopération, je dirais, stratégique dans le sens dans cet axe de la résistance qui doit aller d'un renforcement à un autre pour garantir la souveraineté de tous les pays tous les pays et les peuples de la région, et donc face aux agressions répétées à la fois israéliennes et américaines, et aussi de l'OTAN, disons-le, parce que c'est pas seulement américaine. Derrière l'Amérique, il y a derrière les États-Unis, c'est toujours les forces de l'OTAN qui se profilent. On a vu d'ailleurs les positions absolument abjectes de la France au lendemain de l'explosion du port de Beyrouth, où Macron débarque comme dans un terrain conquis, je viens vous aider, etc. Et puis après, qui tient aussi un discours abject face à la classe politique libanaise, comme si c'était des petits enfants dans sa cour de récréation, il les engueule, etc. En fait, il y a un très violent manque de respect et une très violente dégradation de l'autre, je dirais, donc des responsables et puis des responsables politiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible, et voilà. Donc je pense que l'aspect implicite dans le discours de Hezbollah, de Samahat Cheikh Nasrallah, c'est aussi justement, nous devons être respectés et nous imposerons le respect à tous les pays du monde à travers notre souveraineté et notre fierté nationale.
Merci pour vos explications, Madame Idani. Alors, Madame Moubala, l'un des autres points assez importants dont ce discours a relevé, dont Madame Idani aussi en a parlé, c'est la souveraineté, non seulement la souveraineté du Liban, mais de tous les pays de l'axe de la résistance, à savoir la Syrie, la Palestine occupée. Est-ce qu'à votre avis, si Israël mène et continue et poursuit ses politiques interventionnistes et anti-souverainisme des pays de l'axe de la résistance, il y aurait vraiment un risque de confrontation Israël-Hezbollah?
Un risque de confrontation Israël-Hezbollah à l'instant même où je vous parle, je doute fort, d'abord parce que, de toute façon, comme l'a bien souligné ou rappelé votre invité, que oui, Saïd Hassan Nasrallah a été intransigeant concernant le droit du peuple libanais à explorer et à exploiter son gaz et son pétrole sans demander la permission de quiconque. Et que si on est obligé de s'engager par la force pour obtenir ce droit, nous le ferons. Et c'est la raison pour laquelle il a donné il a lancé un ultimatum. Mais en même temps, il a bien souligné que nous attendons la réponse du médiateur sioniste américain, Hochstein. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour sortir en dehors du discours, je reviendrai plus tard un peu sur la question de la souveraineté, c'est que, à l'heure où je vous parle, les médias israéliens viennent de rapporter, en fait, et dans la nuit de mardi, ils ont rapporté de la part de l'ancien ministre israélien Ayman Ramon, je crois, qui avait commenté justement le discours de Saïd Hassan Nasrallah en disant que Nasrallah travaille à partir de motifs purement libanais et celui qui est responsable doit se préparer et prendre ses menaces au sérieux, mais à la fin, il y aura un accord et il n'y aura pas de confrontation. Donc ça, c'est le discours des Israéliens en apparence, d'accord?
Oui.
Donc, je ne pense pas que l'entité sioniste actuellement est prête à s'engager dans une confrontation avec le Hezbollah, alors que en Europe et surtout les États-Unis, tous les deux, selon leur propre agenda, que ce soit au niveau du gaz, de la crise du gaz et du pétrole, ou bien que ce soit à cause de l'accord nucléaire et voire il y a des élections également aux États-Unis. Donc, je ne crois pas qu'ils sont prêts justement à soutenir une aventure de la part d'une entité sioniste. C'est la raison pour laquelle je crois qu'ils vont tenter de pouvoir signer un accord. Bon, ça c'est pour concernant la confrontation, la réponse à la question de la confrontation. Oui. Pour revenir à la question de la souveraineté, comme l'a bien souligné votre invité, en effet, le Hezbollah, je veux dire le secrétaire général du Hezbollah, a rappelé en fait. Concernant la feuille de route du Hezbollah, à savoir que le document politique de 2009, il a bien dit que notre vision du Liban, un Liban qui est une patrie définitive de tout son peuple, donc avec les 18 confessions. Mm-hmm. Et il a insisté sur la nécessité d'édifier un État juste et puissant, jouissant d'une vraie souveraineté, d'une vraie indépendance dans ses décisions. Donc, en plus de la souveraineté, oui, qui s'inscrit dans le cadre, justement, des limitations des frontières, etc., également une indépendance dans les décisions. Donc, il n'est pas question, c'est-à-dire il faut faire respecter le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures au Liban, qui est tous les jours violé par la visite et l'ingérence de l'ambassadeur des États-Unis au Liban. Et il a, d'ailleurs, il a rappelé, il a bien souligné dans son discours, de sorte qu'il ne soit soumis à aucune ambassade américaine ni à aucune domination étrangère. Donc, quand il parle de patrie, voire de nation libanaise, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il n'est pas question de changer la forme de l'État libanais. Donc, ceux qui parlent de confédération, de fédération, pour lui, cette question n'est pas envisageable. Premièrement, oui. Et deuxièmement, oui, il est pour la convivialité, voire que ces 18 confessions puissent vivre ensemble, cohabiter ensemble, parce que le projet du Liban en tant que tel, dans sa forme, est un projet anti-sioniste dans la forme, puisque le régime sioniste ou l'entité sioniste est un régime qui n'accepte que la religion juive, que le sionisme. Et donc, c'est la raison pour laquelle il insiste sur l'idée de nation libanaise souveraine, c'est-à-dire qui a les capacités de défendre sa souveraineté. Oui. Et enfin, juste un dernier mot concernant justement les 40 printemps du Hezbollah. Le chiffre 40 dans la culture des chiites du haut des Simas signifie que l'homme ou l'être humain ou toute institution, toute révolution a atteint sa maturité.
Oui, oui.
Et donc, elle peut compter sur elle-même. Et donc, quand il marque ces 40 printemps, la maturité à laquelle le Hezbollah est arrivé, que ce soit au niveau militaire, au niveau politique, comme l'a bien souligné votre invité, puisqu'elle a rappelé comment le Hezbollah, justement, a réussi à s'intégrer sur la scène politique, et voire il a déclaré Merci. Qu'il comptait le faire encore plus. Mais en plus, il est arrivé à une maturité culturelle.
Oui. Merci pour vos explications. Nous avons une minute devant nous, Madame Idani, si vous pourriez avoir le mot de la fin, on vous écoute.
Alors moi je pense, contrairement à ce que pense Madame Oubala, je pense que les Israéliens, ils prêchent toujours le faux pour prendre les gens en traître. On a bien vu comment s'est passée leur demande de cesser le feu à travers à Gaza et puis en Palestine, en suppliant l'Égypte pour intervenir, pour faire ce cesser le feu après 3 jours. Avec le djihad islamique, et ils n'ont rien tenu de tout ça, en fait, hein, à tel point que même maintenant les Égyptiens ne peuvent plus supporter cette utilisation qui a été faite. Aujourd'hui, quand ils font des déclarations en disant on ne peut pas faire de guerre, on ne peut pas faire face, etc., pour moi, c'est aussi prêcher le faux pour oui. prendre les gens en traître. Hein. Et c'est leur habitude, c'est toujours on veut rien faire, etc. Et puis ils attaquent, mais ils attaquent en masse. Mais pour moi, je pense que le Hezbollah sera prêt. Et s'ils attaquent, c'est aussi effectivement une attaque, une riposte en masse à laquelle ils vont avoir à faire en face. Et puis ils vont être perdants, même au niveau militaire, malgré toute leur tergiversation et tout leur cinéma, j'allais dire, oui. pour cacher leur jeu.
Merci pour vos explications. Alors, nous avions avec nous Rada Obala, géopoliticienne et docteur en géopolitique à l'Université islamique du Liban. Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales depuis Damas. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis, comme d'habitude, pour une nouvelle édition du débat. Je vous souhaite à vous toutes et à tous une très bonne journée. Au revoir et à très bientôt.
Hushang Ebtehaj, de la douleur et de l'amour. Tu écoutes le récit de mon cœur ce soir. Tu oublieras demain et moi et mon histoire. Cœur brisé, gonflé de chants de larmes, de solitude et de passions amoureuses, nous prenons le large dans l'espoir d'atteindre la côte pacifique. Nous rompons des lances contre le vent, contre la tempête. Nous avançons et avançons fredonnant nos chants à l'unisson. Avec les oiseaux de mer, nous nous envolons, au soleil, sous la pluie et au clair de lune. Dans le royaume de l'amour, nous sommes au pays du Rasa. Ainsi commence notre voyage vers la contrée lyrique de Hushang Ebtehaj, né en 1927 et mort en août 2022. Très jeune, celui-ci se fit le fidèle compagnon du papillon et de la bougie pour crier un amour fou et désespéré. Il ne tarde néanmoins pas à prendre part à la fièvre politique de son époque. Les farouches événements du mois d'août 1953. Inlassablement, il opposera son verbe à l'oppression. Il prendra position en faveur de ceux parmi ses camarades qui connurent la géole. Voilà qui explique pour beaucoup la noirceur de la majeure partie de ses textes. Lyrisme et politique oblige. Les paroles douloureuses du poète, des larmes, se transfigurent alors en sang versé. La rigueur de la bien-aimée conduit à la révolte contre la tyrannie. Et le poète engage sa plume dans son combat pour la liberté. Quand la langue craignait les lèvres, quand la plume redoutait la feuille, et que même la mémoire se troublait, de peur de parler en plein sommeil, nous gravions ton nom dans nos cœurs, comme un dessin sur le rubis. Le baiser. Le chant le plus doux, lui demandai-je. De ses yeux endoloris, elle me fixa. Ses larmes tombèrent goutte à goutte. Sa longue chevelure se mit à frémir. Et pleine de douleur, elle fredonna. Le gémissement des chaînes en mes mains. Et quand elle se libère, dis-je, elle révéla un sourire amer. Quel bel espoir, dit-elle. Mais hélas, mon triste sort ne le permettra pas. Son bateau d'or du soleil est brisé par les rochers de la côte ouest. Je tremblais d'une douleur amère, pleurant avec elle le fond de mon cœur. « Regarde, criai-je, sur cette aveugle mer, l'œil de tout astre comme un phare peut diriger les bateaux. l'œil de tout astre, répondit-elle en levant les yeux au ciel, serait un phare pour bateau. Cependant, cette nuit est une profonde mer. Hélas, que de passagers nocturnes, emportés en sommeil par la magie du soir. Le phare de la lune, dis-je alors, fait bien part du réveil. Mais dans une si sourde nuit, pas un seul chant ne s'entend, dit-elle. Mon cœur bat cependant, criai-je. Écoute, c'est le son des pas d'un ami. Hélas, dit-elle, dans ce piège de la mort, on entraîne encore un gibier. Le son des pas est de lui. Des pleurs déferlèrent en moi. Et le plus beau sourire, lui demandai-je, en plein milieu des larmes. Une flamme éclot dans ses yeux noirs. Le sang lui monta aux joues. Le sourire, dit-elle, que l'amour noble met sur les lèvres des hommes au moment de rendre l'âme. Je me levai alors et lui donnai un baiser. Pleurer. Sous les arbres, les ombres pleurent au soleil vert couchant. Les branches attendent le sort du nuage. Et le ciel est comme moi brumeux et endolori. Le vent t'apporte l'odeur de la terre humide. Les herbes au passage de la nuit sont tristes. Ah, sur quel champ pleut-il? Brûle le jardin dans l'espoir de la pluie. Tel mon cœur désire en fondre en larmes. Le corail. Sous les eaux se trouve une pierre, dans le creux noir de la mer bleue, assise en solitaire, au fond de cette épouvantable tombe. Avec son silence, elle est oubliée au fond de cette tanière noire. Le soleil de midi ne l'a jamais chauffée. Le clair de lune sur elle n'a jamais rayonné. Que de nuit, elle a gémi. Et personne n'est venu pour la secourir. Que de nuit, elle pleura à chaudes larmes, vainement. Au creux de ce bleu, sous les eaux, se trouve une pierre brisée. Pourtant, elle est vivante. Elle palpite au gardant d'espoir. Dans la poitrine d'un amant, elle était un cœur. Chauffée à l'ombre du soleil, elle lui était une fleur. Le soleil couchant. Un vieil arbre, brisé, desséché, perdu, solitaire, est assis dans le silence effrayant des champs. Le regard au loin, déprimé sous le triste soleil couchant, un corbeau accablé était endolori. Retournant à son nid, sur ses branches desséchées, s'éteignit la lueur des derniers sourires du soleil. Hamid Mossadegh, de la séparation. Ces vers, écrits en 1964, devenus très tôt populaires, constituaient le mot d'ordre des étudiants réfractaires à la dictature de l'ancien régime d'Iran. Ils sont par ailleurs révélateurs de l'atmosphère de révolte dans laquelle baigne la poésie de Hamid Mossadegh, 1939-1998. Le titre de son premier ouvrage, L'étendard de Kaveh, 1961, illustre cette dimension essentielle de l'œuvre de l'auteur. Celle-ci est cependant profondément marquée, comme les textes d'un grand nombre de poètes de l'époque, par la célébration de l'amour, la plainte contre la séparation et le pesant désespoir de l'amant, déçu dans sa quête de bonheur auprès de sa bien-aimée. Un profond pessimisme est ainsi à l'œuvre chez ce poète. Pourtant, Mossadegh ne manquera jamais, tout au long de sa vie d'artiste, de chanter l'amour, tout en continuant de nourrir son tempérament de contestataire. Si je ne deviens pas nous, si tu ne deviens pas nous, tu seras toi. Peut-être pourrions-nous attiser de nouveau la flamme de solidarité en Orient. Peut-être pourrions-nous dénoncer les malhonnêtes. Si je me lève, si tu te lèves, tout le monde se lèvera. Si je m'assois, si tu t'assois, qui se lèvera? Prélude. Tu as ri de moi et tu ne savais point. Quelle peur me prit quand au jardin du voisin je volais la pomme. Le jardinier courut après moi. Il vit la pomme dans ta main et me regarda avec fureur. Cette pomme mordue de ta main tomba au sol. Et tu partis. Mais toujours, depuis des années, le bruissement de tes pas se démultiplie doucement et doucement à mes oreilles et me gêne. Et depuis, je suis plongée dans l'idée pourquoi notre petite maison manquait de pommes. Parfois, je me demande qui t'apprendra la nouvelle de ma mort. Ce jour-là, si seulement je pouvais voir ton visage, ton haussement d'épaule indifférent, et le mouvement de ta main, c'est-à-dire, peu importe, et ton haussement de tête. Tiens, enfin il est mort. Hélas, si seulement je pouvais voir, je me dis, qui croirait que le feu de ton amour embrasa la forêt de ma vie.